93.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité.
Voici le mois de mai, les fleurs volent au vent.
Voici le mois de mai, les fleurs volent
au vent. Les fleurs volent au vent, si gentilles, mignonnes. Les fleurs volent au vent, si mignonnement.
Les fleurs volent au vent, si gentilles, mignonnes. Les fleurs volent au vent, si mignonnement.
Le fils du roi s'en va les ramassant.
Le fils du roi s'en va les
ramassant.
Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches et qu'à vos yeux. Glacer à mon front, souffrez que ma fatigue à vos pieds reposée, rêve des chers instants qui la délasseront. Votre jeune sein, laissez rouler ma tête, toute sonore encore. de vos derniers baisers. Laissez-la s'apaiser de la bonne tempête.
La musique.
Caravanana maximum.
Chageuse. Je me fous du
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive le soleil.
Vive les oreilles.
Libre.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde, à Tours, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aux musiques singulières, bizarres, étranges, non commerciales, hors normes. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Léa Sichelski. Bonjour Léa.
Bonjour.
Alors, je vais te laisser nous présenter le premier morceau qu'on a écouté.
Oui, alors c'est un morceau de la rencontre qui a donné ensuite le groupe Big Fish que je collide avec Julien Soro, Ariel Tessier et Gabriel Midon. Et en fait, ils ont un trio ensemble qui s'appelle Dancing Birds et où je suis venue. Voilà, je suis venue les rencontrer à l'intérieur de ce trio, on va dire, et on a fait un bout de disque ensemble. Enfin, on a fait 4 morceaux ensemble sur leur disque. Puis on a décidé de continuer ensemble. Voilà. Donc maintenant, on a un groupe ensemble qui s'appelle Big Fish.
Big Fish. On en reparlera tout à l'heure. Mais avant tout, tu sais, dans l'émission, moi, j'aime bien savoir quel a été le parcours des musiciens, des musiciennes. Donc, je vais te demander quel a été ton apprentissage de la musique et quelle formation as-tu reçue?
Alors, j'ai un parcours. Je suis allée un peu à l'école. Je suis allée au conservatoire d'Orléans et de Tours en classique, enfin en classique et contemporain, on dit comme ça. Voilà, où j'ai travaillé beaucoup la musique du 20e et aussi musique contemporaine, haute forme de notation, etc. Mais bon, voilà, j'ai fait mes classes. J'ai un 2e classique, on va dire. Et puis, en même temps, mais un peu plus tard, j'ai eu un parcours donc au conservatoire de Tours et à Jazz à Tours de jazz. Donc voilà. Et puis, pareil, j'ai passé mes petits examens. Puis après, j'ai hésité à continuer les études. J'ai passé quelques concours qui sont plus ou moins bien passés. Puis je me suis dit que en fait, j'avais déjà beaucoup à faire, que j'étais déjà intermittente. Et que peut-être que c'était le moment de voir un peu ce que je pouvais faire avec mes groupes et continuer voilà à forger un peu la musique que j'avais envie de faire voilà donc j'ai pas fait d'études supérieures à proprement parler mais voilà j'ai continué à aller voir un petit peu des musiciens des musiciennes que j'aimais bien pour être dans une démarche un peu plus apprentissage. Je suis allée voir notamment un pianiste à Boston qui s'appelle Rand Blake. J'ai fait des sessions avec des personnes qui m'inspiraient, par exemple Sylvain et Larry, voilà, j'ai continué à aller voir aussi mon ancien prof de sax, Rémi Dumoulin. Enfin, voilà, j'ai continué à me former, mais bon, comme tout le monde, on continue à se former tout le temps, quoi.
Alors, tu parles de sax de Sylvain Ellery, mais je crois pas l'avoir précisé en début d'émission. Tu joues des saxophones, d'ailleurs, et de la flûte. Et j'aimerais savoir si l'apprentissage se fait concomitamment ou est-ce que l'un précède l'autre? Parce que souvent les saxophonistes sont également flûtistes et c'est une histoire de doigté.
Ouais, c'est deux instruments qui sont assez proches. C'est le système Böhm. Enfin, même s'il y a des choses qui changent dans l'aigu. Enfin bon, voilà, c'est des instruments qui peuvent se pratiquer en même temps sans que ce soit trop des tortures de cerveau quoi. Ouais. Et ouais, du coup effectivement par rapport à plein de saxophonistes qui se mettent à la flûte en instrument secondaire parce que le big band le demande ou parce que c'est sympa de jouer de la flûte, c'est vrai que moi j'ai fait une grosse partie de mon parcours classique et contemporain à la flûte parce que le répertoire est quand même beaucoup plus séduisant que au saxophone et du coup j'ai vraiment bossé cet instrument comme comme on peut le travailler dans ces écoles là et le sax aussi, mais du coup j'ai beaucoup moins, enfin j'ai commencé très peu de temps après la flûte. C'était vraiment mes deux instruments que je voulais tout de suite pratiquer. Enfin, j'ai toujours aimé les deux instruments, quoi. Mais le saxophone, au conservatoire, en classique, j'ai eu un petit, une petite lassitude du répertoire qu'on pouvait me proposer et de la façon dont le saxophone était. Après, enfin, moi, je savais que je voulais faire du jazz avec. Donc, j'avais déjà des sons dans l'idée, dans, les oreilles. Mmh. Et donc, ça m'a un peu lassé, j'ai un peu laissé de côté. Après, du coup, j'étais plus souvent à la flûte, puis j'ai repris le sax et j'ai refait les deux de façon concomitante.
Oui, bah, voilà. Mais alors, quel recul as-tu sur ta formation classique avec le recul, fût-ce une contrainte, nécessaire ou pas d'ailleurs, hein, et joues-tu encore du classique ?
Ouais, ah, j'aimerais bien. C'était pas du tout une contrainte. J'ai vraiment pu. Enfin, déjà, j'ai eu des profs super. J'ai fait de la direction d'orchestre aussi. J'ai fait de la musique de chambre, tout ça. Enfin, en fait, mon parcours en classique était super. Et justement, j'ai voulu aller au bout, alors même que je faisais déjà des musiques improvisées. Enfin, et donc non, c'était pas du tout. C'était avec grande envie que j'ai poussé jusqu'au bout. Après, j'ai continué à faire du classique quand même en faisant des musiques impro et jazz. Mais bon, en fait, déjà, les recherches de son ne sont pas les mêmes, les exigences au niveau des façons d'interpréter, etc. Enfin, en fait, très vite, je me suis rendu compte que c'était beaucoup de travail de garder un son classique et un son perso, sur chaque instrument. C'était beaucoup de travail. Et en fait, au début, pendant quelques années, j'ai continué à faire des orchestres un peu, mais puis très vite, j'ai plus eu le temps. Puis enfin, faut faire des choix, et le choix, c'était de faire les musiques, des musiques de on crée des choses, quoi.
Bah oui. Ouais. Et alors, comment t'es-tu, tu en as parlé déjà à plusieurs reprises, comment t'es-tu tournée, intéressée à l'improvisation ?
Toujours. Enfin, comment dire ça sans que ce soit un peu... en fait, avec mes sœurs, on faisait des petits jeux. Déjà, on inventait des chansons en rando. Je sais pas, je pense que j'ai toujours un peu improvisé, oui. Comme plein de personnes qui se rendent pas compte qu'ils ou elles improvisent. Mais la direction de faire ça, entre guillemets, sérieusement, et de chercher un truc un peu perso là-dedans, je pense que c'était vraiment en même temps que... quand j'ai choisi d'arrêter la fac et de faire que le conservatoire, je me faisais énormément de sessions d'impro toute seule. Oui. Je commençais à rencontrer des gens avec qui je faisais de l'impro plus ou moins codifiée, quoi. Puis j'ai trouvé des gens avec qui vraiment tester des trucs, qui soient pas, où c'était vraiment très très libre. Et du coup, ça remonte, déjà quand j'étais au début de mon parcours classique, j'avais des partenaires de ça, quoi. Donc,
Et durant ton apprentissage, ton adolescence, quelle musique écoutais-tu est-ce que tu t'intéressais à des musiques non commerciales ?
Ah oui. faut avoir accès aussi à ces musiques. Moi, j'avais accès à déjà une discographie assez sympa, parce que mon père, il achetait des disques tout le temps. Ouais. Et ma maman, elle avait beaucoup de... Bon, en gros, j'ai eu accès à des disques de musique classique et contemporaine, parce que ma maman est prof, est musicologue, ouais. Et prof en collège. Mais bon, du coup, grosse discographie. Donc, j'ai découvert Ligeti quand j'étais en troisième, et j'ai halluciné. Enfin, c'était fou, quoi. Ou d'autres... beaucoup de Bach, j'aime bien. Parce que, de toute manière, tout le monde... Personne peut ne pas... Enfin, bref, ouais. Voilà. Ouais, ouais. donc, tout ça, j'ai pu écouter pas mal de classiques. Et puis... Et puis mon papa, il avait des trucs de groove. Genre, je me rappelle que j'ai beaucoup écouté The Roots, par exemple. Qu'est-ce que je lui piquais ? J'ai beaucoup Néné Chéri, Erykah Badu, beaucoup. Donc c'est des trucs commerciaux, ouais. Qui sont déjà dans une esthétique. Et un jour, je lui ai volé un disque de Coltrane.
Ah ouais.
Qu'est-ce que c'est ? Je sais plus. Il y en avait plusieurs. Et je me rappelle que je comprenais rien, parce que j'avais pas encore forcément toutes les clés pour comprendre cette musique, mais par contre ça me faisait tellement de bien. Et donc voilà, après les musiques plus cachées, quoi, vraiment non commerciales, j'ai eu accès un peu plus tard, je pense. Ouais, bah durant mes études de musique où en fait j'ai commencé à fouiller et à me rendre compte, bah voilà, en fouillant les labels, les collectifs, les machins.
D'accord. Et alors, quelles ont été tes premières expériences en tant que musicienne professionnelle et les premiers groupes?
Alors, mon tout premier groupe, bien sûr orchestre et etc. Mon premier groupe auquel j'ai participé en tant que compositrice arrangeuse, on va dire, c'était Mopa, un groupe de Tours, un septet de musique. En fait, c'est un peu du rock prog et un peu qui dévie vers de l'électro expé parfois. Enfin, voilà, c'était mon premier groupe d'expérimentation avec des copains et des copines de l'école. Et puis très vite, j'ai eu un quartet de jazz de swing en fait acoustique. Swing acoustique avec deux guitares, contrebasse, flûte. C'était ça la formation, parce que du coup le sax c'était trop, c'était trop sonore. Oui. Et donc ça s'appelait Alternate Cake.
Oui.
Et ça j'en parle, enfin voilà, c'est ça a duré pendant 2 ans. On a fait plein de concerts, je faisais des, très jazz. Et puis, c'était un peu mes deux premiers groupes à Tours.
Ça, c'est vers quelles années?
Ça, c'était peut-être 2014, quoi, par là, 2015.
Ouais. Parce qu'après, il y a eu, alors on va pas les écouter, on va parler brièvement de deux groupes qu'on n'écoutera pas, mais il y a eu le quintet Capla, je crois, c'était vers 2017.
Ouais, c'est ça, on a dû se former 2016-2017, et ça, c'était mon premier groupe... avec que mes compos, parce que du coup je ramenais de la musique dans les deux autres groupes, mais là Capla c'était mon quintet quoi, et où j'ai pu expérimenter ce que c'était que de l'idée un groupe, et puis bon j'avais déjà composé pour plein d'ensembles, mais là vraiment de
porter le truc,
et puis de rendre un groupe avec un propos, mais c'était j'avais beaucoup d'affection pour ce groupe, et puis c'était mon premier groupe, donc forcément à un moment donné on a envie de prendre d'autres routes et
d'accord,
tout
et
ça,
il est terminé,
il n'existe plus.
Alors ceci dit, en 2022 vous avez sorti un disque, Masque.
C'était un peu un disque pour aller jusqu'au bout d'un truc quoi. On avait un nouveau set. Et ça faisait, il y a eu un disque en 2019, je crois, ou non, 2018, Et du coup, on avait envie de marquer un peu l'évolution du groupe. Et derrière, on a dû faire un concert. C'était un peu pour se dire au revoir, quoi.
C'est bien. Et il y a aussi le groupe Vague qui existe encore, alors, je pense, puisque j'ai vu qu'il y avait un concert.
Le groupe Vague, c'est le groupe de Axel Gaudron, qui est un super ami, un batteur, trompettiste, etc. Super, qui habite à Tours. Et voilà, donc ça, c'est sa musique, c'est ses propositions. Après, c'est un groupe où il y a pas mal d'impro, mais c'est des pièces qui sont... c'est des pièces qui sont écrites avec des propositions de direction, d'improvisation, quoi. En gros, puis de la musique très écrite aussi à certains moments. Et donc, on a joué pas mal de... Enfin, on a joué quatre fois cet été. Et on se revoit pour jouer en novembre dans le cadre des Rocomotives, me semble-t-il.
D'accord. Bon, de toute façon, nous reviendrons en fin d'émission sur tes concerts à venir. Il y en a pas mal. Et alors, pour revenir à Capla, j'ai lu sur Internet que les influences de la musique du groupe, qu'il y avait quelques noms de musiciens de jazz qui étaient cités, d'autres noms concernant d'autres formations, toujours dans le jazz. Et je voulais savoir quel est ton rapport, toi, au jazz. Revendiques-tu clairement cette filiation? Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui le jazz pour une jeune musicienne?
Moi, j'ai pas peur. Ça m'embête pas. Je suis assez contente de dire que je fais du jazz, parce que je fais quand même pas mal de musique qui. J'adore l'improvisation. J'en fais mais un autre endroit que j'ai, c'est le jazz. Je pense que vraiment, je fais du jazz et de l'improvisation à deux endroits différents. Et donc, ouais, je pense que je suis à l'aise de dire que je suis aussi une musicienne de jazz parce que, bah, voilà, j'ai fait beaucoup de, bon, j'ai repiqué plein de musiciens, musiciennes, j'ai pris beaucoup plaisir à faire ça, que j'ai encore des groupes où je fais des, où je construis des discours avec des phrases, parfois avec des idiomes de cette musique-là, enfin, dans le sens un peu tradition du terme, quoi. Je rencontre régulièrement des musiciens, des musiciennes de jazz avec qui je joue. Enfin, oui, du coup, ça une place. Ça, bah, comme voilà, il y a un milliard de types de jazz. Bah, je pense que oui. Je suis dans une de ces branches-là, d'une certaine manière, et ça me. Et voilà, il y a aussi. Enfin, ouais, je me pose pas trop de questions par rapport à ça, mais voilà.
Bah, tout va bien. Alors, on va écouter Circé, puis on en parle après.
Ouais.
Nous venons d'écouter Monsieur Loyal passera trois fois du groupe Circé. Alors Léa, peux-tu nous présenter ce groupe dont on vient d'entendre un morceau composé par toi, je crois?
Oui, c'est le seul de l'album parce que Circé, c'est un autre groupe que j'aime très fort et qui n'est encore pas de moi. On parle, c'est bien, on parle des groupes auxquels je participe avant de parler de...
Bah
de
voilà,
mes groupes. Et donc c'est le groupe de Arthur Delalleux, pareil, un musicien tourangeau, un guitariste. Et donc voilà, ça c'est un morceau que j'avais ramené pour le groupe pour l'enregistrement de l'album. Donc on est à l'époque c'était un sextet avec deux sax, puis maintenant voilà, c'est sax, deux guitares, contrebasse, batterie. D'ailleurs, il y a le fameux Axel Gaudron de tout à l'heure qui nous a rejoint dans ce groupe très récemment.
Peut-être tu peux dire les autres musiciens.
Ah oui, voilà, avec donc Arthur Delalleux, Axel Gaudron, Alix Beuchet et puis Nicolas Zenz à la contrebasse. Ouais. Voilà, avec moi.
Alors, le morceau qu'on a écouté, extrait de l'album Alcali, c'est le second, je crois, ouais, qui est sorti il y a un an. Et quelques mots sur ce disque ou...
On a enregistré pour une partie au Luisant, à Germigny de l'Exon, un truc comme ça. Ouais. C'est un endroit super avec une grange qui sonne hyper bien. Enfin bon, voilà. Et ça a été mixé moite-moite, enfin, en partie par Baptiste Mésange et pour l'autre partie par Pierre Dine. Voilà, on en est très contents. Ça marque, je crois, le début d'un son un peu plus perso, même si je pense que maintenant ce qu'on fait avec ce groupe c'est encore autre chose. Enfin, c'est un groupe qui évolue assez vite, c'est marrant. Ouais. Et en même temps, on est resté très longtemps dans un truc très inspiré par Paul Motion et Electric Bebop Band et trucs comme ça. Et en fait, là, ça commence à prendre une autre tournure. Donc, j'ai hâte qu'on refasse des concerts avec cette formation, quoi.
Ah bah, très bien. Ouais. Alors, le groupe fait partie du Capsule Collectif. Ouais. C'est un collectif de Tours, donc. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et tu partie prenante? En fais-tu partie toi-même?
De fait, par le biais de ce groupe-là. Et puis... ça dépend un peu des périodes de ma vie, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où je suis plus présente à Tours et des moments où je ne le suis pas du tout. Mais c'est un collectif qui marche bien, qui organise plein de choses à Tours, qui organise des soirées, des concerts l'été sur des îles de la Loire. Des événements à la guinguette, des partenariats avec le Petit Faucheux, c'est un collectif qui est très actif. On est une trentaine dedans en même temps.
Alors, je voulais savoir si toi-même, tu as une compagnie qui porte tes projets, comme on dit.
Pas encore. Jusqu'à maintenant, j'en ai pas vraiment eu besoin parce que, il y a Capsule, il y a le collectif Surnatural, il y a aussi la villa avec laquelle on est structuré avec Prospectus, la villa Beaulieu, exactement. Je travaille toujours avec des collectifs qui portent. Donc, pour l'instant, non, mais c'est en projet, ouais, puisque pour mon futur nouveau groupe qui va se monter la semaine prochaine, je pense que je serai plus à l'aise de travailler avec ma propre structure, quoi.
Et oui, on va reparler et on va écouter Prospectus, donc que tu viens de citer. Et Prospectus et d'autres de tes formations ont été soutenus, et tu l'as déjà cité, par le Petit Faucheux. Et ce lieu semble avoir une importance particulière pour les musiciens, musiciennes tourangeaux. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que ça a comme importance à Tours? Est-ce qu'il y a d'autres lieux, d'ailleurs, que le Petit Faucheux?
Oui, il y en a plein des lieux où il y a des concerts super. Le Petit Faucheux, c'est donc à Tours. C'est la SMAC Jazz de Tours. Ouais. Donc, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire qu'il y a une programmation qui est quand même très orientée jazz et musique improvisée. C'est un endroit où on sait qu'on peut se tenir au courant et qu'il y aura forcément des trucs qui vont nous intéresser assez vite. Ça veut dire aussi que c'est un endroit qui a pour envie et but de soutenir également la scène locale, sachant que la scène locale en jazz à Tours, elle est assez riche, puisque il y a l'école, il y a aussi des gens qui viennent habiter à Tours parce que on sait que ça vit beaucoup à cet endroit-là. Donc bon, voilà, il y a un truc, ça fait vivre cette scène-là, ça fait des échanges avec c'est un endroit qui marche bien.
Il y a le festival. Moi, j'étais allé à Tours pour interviewer Renaud. Ouais. À l'époque, c'était lui, pour le festival Superflu également.
carrément. Et Festival Superflu, par exemple, c'est une programmation qui est un petit peu plus orientée sur les musiques expérimentales, ouais, et ou électroniques. Donc, oui, c'est hyper intéressant aussi. C'est vrai, ouais, que c'est souvent une belle programmation. J'ai découvert plein de trucs à ce festival. Ouais. Et donc, le petit faucheux, c'est aussi ça va être ma maison en tant qu'artiste associé. Pardon, voilà, je te squeeze ta question.
Oui, tout à fait. Mais alors, quelle importance, artiste associé, donc tu vas être artiste associé, quelle importance ça a, et pour nos éditeurs qui ne sont pas forcément au fait, et auditrices qui ne sont pas forcément au fait de ce qui se passe dans les coulisses de la musique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Eh bien, ça veut dire que pendant 2 ans, on sera associé. Avec Bo van der Werf également, donc on est 2 artistes associés cette année, enfin ces 2 prochaines années. Et alors ça veut dire qu'on est soutenu sur une création, donc moi ça sera donc mon prochain quartet. Ouais. On est soutenu sur de la diffusion, donc c'est pas encore très clair, mais je sais que du coup on va pouvoir montrer quand même notre musique, enfin faire écouter notre musique dans les locaux du Petit Faucheux, peu importe la forme que ça prendra. Et puis, on est associé aussi sur les dimensions plus action culturelle, comme on dit vulgairement, quoi. Et donc, on réfléchit ensemble à des rencontres avec des écoles, à des rencontres avec plein de structures différentes, ouais, et des formats de concerts, des formats de jeux ensemble, des façons de rencontrer les gens par la musique autrement que dans la salle de concert. Donc il y a un peu ces 3 pans là, puis des discussions entre nous sur la vie du Petit Faucheux, donc esthétique, enfin voilà, au niveau des esthétiques, ouais, des envies, tout ça, quoi.
Je propose qu'on écoute un morceau de Prospectus qui s'intitule Sarah.
Mm-hmm.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, en compagnie aujourd'hui de la saxophoniste, flûtiste, compositrice, improvisatrice, Léa Sichelski. Alors Léa, on vient d'écouter Prospectus. Peux-tu nous présenter ce groupe, en commençant par nous dire quels sont les musiciens ?
Oui, alors c'est un quartet avec Henri Pérouse au saxophone, moi également, enfin Henri Pérouse au saxophone et aux clarinettes, pardon. Du coup, moi je joue les sax et les flûtes dedans. Florentin est à la batterie et Julien Ducoin à la contrebasse.
Bon, très bien. Quelles sont les idées ? Alors là, c'est ton groupe, c'est toi qui composes.
Pas seulement. J'ai ramené beaucoup de musique pour ce groupe, mais Henri aussi, beaucoup, et les deux autres composent également. Donc c'est un groupe vraiment très collectif dans la façon de fonctionner et la musique, la façon de construire la musique.
Très bien. Alors, mais quelles sont les esthétiques mises en œuvre dans cette formation ?
Les esthétiques. Mais
les idées, tu vois ce que je veux dire. C'est...
Je pense que pour le coup, c'est un quartet de jazz. En fait, l'idée, au départ, on a fait notre son sur des musiques de, en gros, on s'est dit, faisons un groupe ensemble. On avait déjà l'habitude de faire de la musique ensemble, tout ça. Et du coup, la première session et le premier concert d'ailleurs, c'était de la musique de Ornette Coleman, de la musique de Mal Waldron, de la musique de Steve Lacy. Et il y avait peut-être, du coup, c'était vraiment cette esthétique-là, quoi. Donc, un peu free jazz contemporain, quoi. Enfin, un peu avec des trucs un peu cubiques. Enfin, bon. Et derrière, on s'est plus trop vu pendant quelques mois et on s'est dit bon, on se donne rendez-vous chez mon papa. Et on s'enregistre, on va faire une maquette. Tout le monde ramène ceux qui veulent ramènent des morceaux. Donc Henri écrit beaucoup. Moi, j'avais ramené pas mal de trucs pour cette session et les autres aussi. Mais on a enregistré, on a enregistré le double album d'où provient Sarah.
Ah oui.
Et du coup, en 3 jours, on déchiffrait de la musique et on l'enregistrait directement.
Ah oui, d'accord.
Et donc c'est là, pour moi, c'est vraiment ce disque-là, enfin ce double album de 2020, ouais. C'est vraiment la naissance de ce groupe, quoi.
D'accord, d'accord. Ah, il semblerait qu'un second album soit en préparation.
Oui, carrément, il est même en plein mix. Normalement, enfin, c'est pas normalement. Il faut qu'il soit sorti en janvier, car on le présentera au concert qu'on a donc à Jazz Nevers et à Albi fin janvier.
Et alors là, pareil, les compositions, j'imagine, d'un peu tout le monde. Quelle a été la progression du groupe, l'évolution plutôt du groupe ?
L'évolution. En fait, pendant 2 ans, en fonction de ce qu'on pouvait faire aussi avec avec le Covid et tout ça. En fait, on a fait pas mal de tournées dans les cafés-concerts, des bars à sceaux, des lieux où c'est un peu à la cool, quoi, et où on n'est pas forcément payé, enfin, pas si payé, mais pas forcément déclaré. Donc, voilà, on a fait des tournées et surtout des lieux qui n'avaient pas forcément l'habitude d'avoir ces musiques-là. Enfin, en fait, on démarchait un peu tout dans le coin. On a beaucoup joué autour de Tours aussi. Et bon, pas que, mais pas, enfin, on va dire à 3 heures autour de Tours, quoi, dans un périmètre. Ouais. Et en fait, c'était chouette parce que on se retrouvait à jouer dans des endroits où les gens n'avaient pas forcément tous les codes, entre guillemets, et appréciaient la musique. Enfin, on a parlé beaucoup de musique avec des gens pas forcément habitués au jazz et aux musiques impro.
Super.
Et en fait, c'était très constructif pour nous et pour notre rapport à cette musique-là aussi. Voilà, et maintenant on commence à faire des concerts dans des lieux un petit peu plus...
institutionnels.
Ouais, institutionnels, puis avec des programmations un peu plus dessinées vers faire ça, mais je crois qu'on va continuer à faire, à avoir ce genre de concerts un peu à l'arrache, où on peut jouer, quoi. Mmh. Enfin, Voilà.
Alors tu sais que nous à Paris, on est familier. Ça, c'est même un peu énervant hein, de voir toujours nos musiques dans des caves, tu vois.
Ouais.
Parce que il y a rarement des concerts à Paris. Il y en a à Montreuil énormément, mais à Paris, c'est assez rare. Mmh. Et je crois que c'est Renaud, l'ancien programmateur du Petit Faucheux, qui m'a parlé du fait qu'il y a effectivement tout un réseau de petites salles, de cafés, tout ça à Tours.
Bah à Tours, il y en a pas mal déjà. Donc il y a il y a pas mal de bars qui programment.
Ouais.
Et puis après en fait dans la campagne de Tours, parce qu'on est très vite à la campagne, ouais. Et la campagne c'est quand même des petites villes, mais il y a un à deux cafés qui programment par petite ville et en fait on se c'est vrai que c'est bouche à oreille où on se rencontre dans un petit festival à Saint-Mars-la-Pile par exemple on se rencontre et puis on propose et puis les musiciens les amis nous racontent où est-ce qu'ils ont joué et puis en tout cas il y a pas mal d'endroits
Est-ce que tu crois, parce que tu parlais d'un certain dynamisme dans la région, est-ce que tu crois que c'est lié à ça justement, à cette multiplicité de petits lieux qui proposent dans lesquels on peut jouer quoi?
Bah ouais, sûrement, parce que j'ai l'impression que déjà pour construire un groupe ou un projet artistique à Tours, y a un truc assez accessible même quand on part de rien entre guillemets, qu'on n'est pas forcément aidé, parce que déjà c'est plus facile de trouver des endroits pas chers où répéter. C'est les gens ont souvent des studios chez eux aussi, parce que c'est un peu plus y a plus de place à Tours. Il y a des endroits où jouer, donc on n'a pas forcément besoin d'exporter beaucoup pour faire bien débuter un groupe. Je pense que ça participe, et puis il y a aussi une émulation artistique où on se croise au café, parce qu'il y a quand même une vie un peu de j'aime bien dire tour village, parce que on sait qu'au sort on va forcément croiser des collègues, des amis musiciens ou musiciennes, et du coup c'est assez agréable et on échange beaucoup sur ce qu'on fait, sur nos recherches, les endroits dont on revient d'être allé jouer quoi.
Ouais.
L'émulation et la possibilité de jouer sans aller trop loin, qui fait que un groupe il peut vite avoir une tête de groupe et une force de groupe, et après on va jouer un peu plus loin en France ou ailleurs.
Oui. Justement, tiens, parlons de ça, on va sortir des caves là pour le groupe Prospectus. Et lauréat, félicitations, de Jazz Migration. Alors, on a déjà parlé du dispositif dans l'émission, mais j'aimerais avoir ton avis à toi. Tu peux nous rappeler quel intérêt cela a pour les musiciens et musiciennes d'être lauréat de Jazz Migration ?
Il y a un petit côté visibilité qui n'est pas jeté. c'est un gros coup de pouce pour le coup. Puis ça fait passer le groupe un peu à un autre, sur une autre scène en fait, tout simplement. Oui. Pour le coup, la première chose c'est la visibilité, la deuxième chose c'est l'accompagnement. Donc on a des formations, je crois qu'il faut pas dire formation, mais on a des journées d'échange autour de problématiques de la professionnalisation de la musique, quoi. Qui sont sous forme un peu d'atelier. Donc en plus on peut travailler directement sur le groupe avec des personnes qui sont bien dans les milieux, dans des endroits bien spécifiques, etc. Mmh. Donc ça c'est quand même très précieux. Le troisième gros truc à mon sens, et pas des moindres, c'est les concerts.
Ouais.
C'est que là du coup quand je dis ça change un peu de scène, c'est que on se voit programmer dans des endroits où il aurait peut-être fallu encore 2-3 ans pour imaginer avoir une visibilité suffisante pour jouer dans certains endroits, on va dire. Bon, après, c'est... Bon, En tout cas, moi, je suis très contente de pouvoir faire ces concerts. Par exemple, à Jazz Nevers ou au Théâtre d'Albi. À Jazz Nevers, j'étais déjà allée jouer, mais pas avec mes... Du coup, c'était avec l'ONG de,
ah oui,
de Fred Morin. Donc oui, bah forcément, il programme l'ONG. Et au Théâtre d'Albi... Bah, j'ai très hâte parce qu'ils ont l'air très sympathiques. Ouais. Mais voilà, en tout cas, c'est par...
C'est-à-dire que Jazz Migration, si je comprends bien, ont leurs entrées, on va dire ça comme ça, dans des grands festivals plus...
Oui,
ouais, c'est ça.
C'est ça, c'est que...
Ils proposent, après ils obligent à rien.
C'est ça, ils proposent ces groupes-là, c'est comme une... C'est...
Une carte
forme de,
visite,
de label, ouais, ouais, de carte de visite. Après, on va jouer à l'AJMI en décembre. Et ça, c'était... J'ai rencontré... Julien, pardon, dans une rencontre AJC, donc grâce à ce réseau, ouais, Jazz Migration, etc. Mais il nous programme parce qu'il a écouté la musique.
Ah oui, et qu'on,
en fait, on, voilà, il y a aussi le côté rencontre, journée professionnelle. Mmh. Voilà, on aime ou on n'aime pas s'y rendre parce que ça peut être un exercice professionnel assez difficile quand on. Quand on a du mal à se vendre, entre guillemets, et tout ça. Oui. Mais finalement, en fait, on rencontre aussi des gens très sympas, avec qui on sent des atomes crochus artistiques, quoi. Mm. Que ce soit des programmateurs ou des musiciens, musiciennes. Et donc, ça permet aussi de faire des ponts, de par la suite, discuter et avec ça permet de rencontre, quoi.
Ouais, alors tu sais que moi je reçois aussi le disque là de Jazz Migration, parce qu'ils font un disque aussi qu'ils envoient, ouais. Moi je reçois ça, puis j'écoute toujours avec plaisir, tiens, des nouveaux groupes et tout. Alors je propose qu'on écoute Big Fish ce coup-ci, le groupe Big Fish et pas le pré-Big Fish qu'on a écouté en début d'émission. Et le morceau s'intitule Seul mais pas trop, puis on en parle après. Thank you. c'était Big Fish, seul mais pas trop. Alors, tu l'as un petit peu évoqué, Léa, tout à l'heure. Mais peut-être tu peux nous redire quelle est l'histoire de ce groupe Big Fish. Comment ça a commencé? Comment t'es-tu retrouvé dans cette histoire-là?
J'ai rencontré Julien Soro dans le programme Dancing in Your Heads de l'ONG de Fred Morin.
Ah oui.
Voilà, où je remplaçais Annalena Schnabel, super saxophoniste. Et donc, on a eu un peu un coup de cœur saxophonistique, jazzistique. Et tout de suite, on s'est dit, bon, allez, il faut qu'on fasse des sessions. Et il m'a invité à jouer avec son trio, qui était donc avec, enfin, qui existe toujours d'ailleurs, avec Ariel Tessier et Gabriel Midon. Ça s'est super bien passé. On a joué du Chris Lycap d'ailleurs à l'époque. Bon. Et puis voilà. Donc on a enregistré des 4 pistes ensemble qui apparaissent sur leur disque en trio, Dancing Birds. Et par la suite, on s'est dit continuons et faisons un quartet qu'on a appelé Big Fish. Et donc dans lequel j'ai ramené pour le quart des compositions, parce que pareil, c'est encore un groupe très très collectif.
C'est ça que je voulais te demander, qui compose et comment se passe la création de la musique?
On compose tous les quatre et puis après on arrange ensemble, quoi. Enfin comme un groupe. Et ce qui est marrant, c'est que avec 4 plumes très différentes, j'ai l'impression qu'on a quand même un discours. Enfin, déjà, on écrit vraiment tous les 4 pour ce groupe. Enfin, il n'y a pas eu trop de recyclage de morceaux comme des fois on fait. En fait, on ramène des trucs qu'on n'avait pas ressortis depuis longtemps. Enfin, en jazz, en tout cas, je sais que ça se fait pas mal. C'est un vrai groupe. Bon, en même temps, voilà, c'est pas grand chose de dire ça, mais on arrange ensemble voilà.
Alors Pégase et les Licons, c'est leur collectif, ils viendront nous le présenter le 29 septembre prochain à l'occasion du festival Pégase qu'ils organisent. C'est un collectif parisien. Et ma question est, comment t'organises-tu, parce que tu es à Paris, tu es à Tours, comment fais-tu, t'as d'autres formation parisienne, comment est-ce possible?
Alors j'ai un peu les deux endroits de vie, vrai. À Paris, j'ai aussi Surnatural Orchestra, qui a un ensemble qui est très présent dans ma vie de compositrice d'instrumentiste. Et c'est un collectif qui est très vivant aussi, donc Pégase et les Licons, c'est vraiment le collectif qui supporte Big Fish et dans lequel Julien Soro est co-directeur artistique, me semble-t-il. Mais c'est un collectif dans lequel je ne m'implique pas comme dans le collectif Capsule. Surnatural ou comme dans Capsule, quoi. Donc du coup ça reste assez symétrique, voilà, où j'ai un gros collectif à Paris, un gros collectif à Tours. Et bon, je m'en sors en étant pas assez présente dans l'un comme dans l'autre, et puis voilà.
Et puis en prenant beaucoup de trains, j'imagine.
Ouais, c'est ça.
Comme aujourd'hui. Merci d'ailleurs d'avoir fait le voyage.
Avec plaisir.
Alors, dans la plupart des groupes dans lesquels tu joues, tu es la seule femme. La seule musicienne. Alors, as-tu une réflexion, des idées particulières à partager avec nous concernant la présence des femmes sur les plateaux des scènes des musiques en marge que nous affectionnons ici dans l'émission?
C'est un cheminement. J'ai l'impression, déjà hier j'en parlais avec un ami avec Antoine de la Rancière d'ailleurs, au Petit Faucheux, qui me disait qu'il avait l'impression que dans les musiques improvisées il y avait une représentativité des femmes un peu plus forte que dans le jazz au sens traditionnel du terme. Et c'est vrai que j'observe ça aussi. Donc on peut aussi constater un truc pour moi social, enfin des consciences en fonction des milieux. Là où peut-être les musiques improvisées et ou expérimentales, c'est un milieu qui se pose peut-être plus de questions sur sur les minorités, enfin les femmes ne sont pas une minorité, mais sur des questions sociales, des questions de représentativité, des questions de langage, des questions de présentation, enfin voilà, de format, des questions de, bah en fait plus de questions de de façon de parler, de force politique du langage, de tout ça. Enfin, moi j'ai l'impression que, après je vais pas comparer, mais peut-être que il y a un truc où c'est aussi dans l'attitude de remise en question des musiques traditionnelles, enfin traditionnelles, des musiques savantes, remise, enfin voilà. Je pense qu'il y a d'autres. Il y a des trucs intéressants à prendre, en tout cas, dans ce milieu-là, pour ces questions.
Et comment t'expliques ça, alors, du coup?
Bah, je sais pas. Mais tu vois, par exemple, je pense que c'est rare d'aller dans un endroit qui programme, après, je vais lancer une guerre, en fait. Faut pas que je fasse ça. Mais je pense que, tu vois, on voit souvent, la question de la place des femmes dans le jazz. Alors, c'est des questions et des discussions qu'il faut avoir.
Ouais.
C'est des discriminations positives par lesquelles il faut passer, etc. Mais c'est vrai que moi, ça me fatigue des fois de voir ça, parce qu'en fait, déjà, c'est pas la question de la place des femmes, c'est la question de la représentativité des genres au plateau, où on pourrait la nommer juste de façon un peu moins binaire et un peu plus égalitariste, c'est-à-dire que trop montré du doigt aussi, enfin bon, voilà. Et après, comment je l'explique, peut-être aussi que historiquement, le jazz était une musique très masculine, et là où peut-être les musiques issues, enfin donc les musiques improvisées aujourd'hui qui sont issues, peut-être je sais pas, moi, pour un peu du trad, un peu des musiques contemporaines, un peu des musiques revendicatrices,
expérimentales,
etc. Peut-être que c'est un endroit qui a moins d'histoire genrée, en fait, quoi. Ouais, et donc peut-être plus de modèles pour les jeunes femmes. Je sais pas, et peut-être moins de plafond de verre, du coup, vu que peut-être c'est moins écrasant. Je sais pas.
On avait
parlé avec Guillaume Hasbrook et Chloé Caïton, qui avait un podcast qui s'appelait Super Jazz Woman. Enfin, je passe, c'est hyper intéressant. Pas seulement le truc, il y a Sylvaine, il y a plusieurs instrumentistes qui avaient fait ce podcast. Et on avait discuté justement du plafond de verre et de l'auto-empêchement avec eux. Parce qu'ils ont fait des recherches un peu poussées, sociales, sur ces questions-là. Et je pense que dans ce podcast-là, il y a plein de réponses là-dessus. Enfin, en tout cas, moi, j'avais beaucoup aimé parler avec eux et elles.
Ben, super. Ouais. Eh ben, on va écouter le groupe pour lequel, le prétexte à ton invitation aujourd'hui, c'est qui se produira dimanche. Il s'agit de Mej. Et on écoute Impro numéro 7. Thank you. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne, partout ailleurs, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aux musiques bizarres, singulières, hors normes, non commerciales. Et aujourd'hui, nous invitons Léa Sichelski, saxophoniste, flûtiste, improvisatrice et compositrice dans le groupe Mej, qu'on vient d'entendre, sauf que là, on vient d'entendre une impro, je crois. Hein.
Et oui.
Et alors, Mej, et donc je l'ai dit précédemment, le groupe qui se produira dimanche au festival Constellation à la Villette. Tout simplement, peux-tu nous présenter cette formation?
Alors, c'est un trio avec Vincent Duchosal à la guitare et Benjamin François à la batterie. Mmh. Moi-même, je fais saxophone et effet.
Et un truc que je t'ai pas demandé, quel saxophone joues-tu?
Ah oui, moi je fais surtout du saxophone alto.
Ah oui.
Mais dans quelques groupes, je fais du ténor et je fais aussi de plus en plus du saxophone soprano.
Ah ok.
Voilà.
Donc je t'ai interrompu.
Mais donc dans Mej, je joue uniquement du saxophone alto. J'ai qu'un instrument et pour une fois, ça fait du bien. Mais du coup, forcément, j'ai ramené des pédales. Mais bon. Voilà. On fait effectivement beaucoup d'impro.
Ouais.
C'est un groupe, je pense, oui, qui fait moitié-moitié d'écriture et d'improvisation. Bon, en fait, c'est bizarre parce que le jazz, c'est ça aussi. Enfin, mais je veux dire, on fait de l'impro libre et des écritures.
Ouais. Voilà. Ah, donc, je voulais te demander la part, mais tu viens d'y répondre. Mais ce que je voudrais savoir aussi, c'est les impros. Parce qu'il y a plusieurs façons de faire des impros. Dans le jazz, on connaît les grilles, par exemple, tu vois. J'ai pas l'impression que ce soit ça trop. Mais les impros sont-elles cadrées? Y a-t-il une trame, par exemple?
Bah, plutôt pas, en général, quoi.
D'accord.
Enfin, du coup, on va plutôt privilégier les matériaux dont on peut se servir pour commencer une impro, en gros, ou qu'on va pouvoir évoquer dans l'impro. Mais en fait, finalement, il y a toujours un cadre, d'une certaine manière, mais ça va pas forcément être un cadre harmonique ou un cadre rythmique ou encore un cadre de grille, etc.
Ouais.
Enfin, ça va pas être une grille, ça va pas être une tourne, ça va être peut-être un motif qui va pouvoir être étiré ou enfin après on en fait un peu ce qu'on veut mais dans l'idée c'est plutôt des matériaux écrits qui peuvent paraître improvisés et que on va pouvoir mixer voire dissimuler dans l'improvisation en gros,
ah oui
quoi.
Ah super ouais. D'accord et pourquoi ces musiciens là qu'est-ce que je veux dire c'est pourquoi quel projet t'as? Est-ce que dans un projet, par exemple, comme Mej, est-ce que tu l'associes à des musiciens particuliers, ou un instrument, ou une personnalité? Comment ça se passe, quoi, dans tes groupes? Comment tu choisis les musiciens?
Ah oui, la plupart du temps, on se choisit.
Ah oui.
Enfin, c'est des rencontres avec des désirs un peu communs de faire de la musique, et puis après, dans certains groupes... d'un coup, ça devient un peu plus le groupe de telle personne parce que telle personne ramène un peu plus de musique.
Enfin,
voilà. Là, en l'occurrence, l'histoire, c'est Benjamin François, donc batteur de Tours, qui me demandait, qui me proposait des sessions régulièrement. Parce qu'on est amis, et puis à chaque fois je disais oui, mais bon, là j'ai pas le temps, mais oui, j'ai trop envie, mais voilà. Et puis un jour, il me dit non, mais Léa, allez, on y va. Et là, vraiment, je pense que j'ai la super équipe, enfin, ça a vraiment trop bien fonctionné, fais-moi confiance et tout. Je dis bon, ok, on y va. Donc il me présente Vincent Duchosal, qui est devenu quelqu'un de très important ensuite, mais et donc on se fait une première session, ça marche hyper bien, on fait plein d'impro, ça fonctionne hyper bien, et puis du coup ça m'a donné envie d'écrire de la musique et j'ai ramené des trucs pour ce groupe là mais donc là c'était plutôt, ça venait pas de moi, tu vois.
Ah ouais, d'accord.
Et voilà, il y a d'autres fois où ça vient de moi, mais ouais.
Donc là c'est toi qui composes? Non, tu composes pas tout.
Pour le set qu'on va jouer à la Villette, il y a pas mal de morceaux à moi, mais non il y a il y aura un morceau de Vincent et un morceau de Benjamin aussi. Alors, et voilà. Et les impros, bah, c'est des morceaux à tout le monde. Hein.
Ouais. Alors, Vincent, nous l'avions reçu. Il nous avait présenté son collectif. Tu vas m'aider.
Les mineurs de fond.
Ah, exactement, voilà.
Et qui sont maintenant, qui s'appellent les mineureuses d'ailleurs.
Ah, super. Ah, c'était une chouette rencontre avec, avec eux. Et alors, concernant les compositions, j'aimerais savoir dans Meige ou tes autres groupes, par quels moyens transmets-tu la musique ? Écris-tu des partitions, par exemple ?
Par quel moyen
tu transmets la musique
à... Ah oui. Alors, bah oui, moi j'aime bien dessiner, écrire, enfin faire un papier quoi.
Ah d'accord.
En général, parce que bon, voilà, j'aime bien le support, j'aime bien avoir au moins un post-it quoi. Parce que des fois, en fait, un morceau, et c'est plus effectivement, ça va plus être une proposition de direction d'impro, où il y a plein de choses qui se forment, qui se racontent à l'oral, mais ouais. qui ne s'écrivent pas. Donc j'essaye d'avoir une image, une image, oui, un dessin clair à partager. Donc il y a beaucoup d'oralité quand même dans les impressions que j'ai envie que donne ce morceau, dans le déroulé, l'image que j'ai eue en composant, la petite histoire quoi.
Ah oui.
Je suis très petite histoire et sensation physique quoi.
Ouais, ouais.
Et donc ça, c'est des choses que on va pas forcément écrire sur le papier, mais qu'on va passer par des mots ou par des ou autre chose, mais voilà.
Ouais.
Et après, ouais, j'aime bien montrer sur le papier, par exemple, les couleurs, écrire les échelles, ou mettre des fois entourer un truc, le relier à un autre truc.
Ah oui, d'accord.
Ça, en fait, ça peut être des partitions très, très, très classiques, parce que des fois, j'écris des lignes.
Des portées.
Ouais, voilà, avec une ligne de basse, une ligne de batterie. Enfin, voilà, vraiment. Très classique quoi.
Ouais.
Et parfois je préfère le faire à la main, oui, parce que du coup j'écris des partitions sur un logiciel.
D'accord.
J'ai pas, enfin voilà, ça se passe bien. Et puis des fois je préfère le faire à la main parce que je vais avoir envie de montrer que ça c'est relié avec ça, de faire un peu une autre façon de percevoir la partition, parce que des fois on lit un peu des partitions sans vraiment les lire, donc la mise en page compte beaucoup dans certaines musiques, je trouve.
Ouais, c'est vraiment...
Enfin voilà, j'essaye de voir s'il n'y a pas d'autres manières un peu plus claires de raconter ce qu'il y a dans ma tête, mais bon, ouais, j'aime bien le papier quand même.
Ah, super. Et alors, tu as pas mal de formations, on l'a vu, on le verra. Comment assignes-tu des formations dans lesquelles tu composes, comment assignes-tu... C'est peut-être une question complètement incongrue, bizarre, mais comment assignes-tu une idée de création, une musique qui peut te venir dans la tête, est-ce que ça se passe comme ça d'ailleurs, à tel ou tel groupe ?
Ah oui, parce que moi j'aime bien écrire pour des gens. En fait, les gens qui jouent, en général, c'est quand même des gens que j'adore, et, en tout cas d'où j'adore la musique, au moins ça. Et donc, j'ai plus de plaisir et plus d'entrain à écrire... pour des personnes, pour des personnalités musicales.
Ouais.
Et donc, c'est arrivé quelques fois que je réutilise un morceau avec un autre groupe en me disant « Oh, ça se trouve, on va faire cet arrangement-là parce que ça joue comme ça. » Et du coup, le morceau ne va rien avoir à voir avec l'autre version de tel autre groupe. Mais en général, je ramène de la musique originale pour...
Par rapport aux personnes.
Ouais, par rapport aux personnes, par rapport à l'image esthétique que j'ai du groupe, par rapport aux possibilités aussi. Des fois, il y a certains types de musique ou certaines esthétiques, certaines impressions esthétiques qui vont être beaucoup plus difficiles à évoquer avec certaines personnes qu'avec d'autres. Des trucs. Je vais chercher l'évidence un peu, quoi.
Ouais,
peut-être.
Ouais. Je propose qu'on écoute un deuxième morceau de Meige. Que signifie Meige ?
Meige, c'est un hyper joli mot qui nomme une montagne dans les Alpes, un sommet.
Ok, Meige.
La Meige.
La Meige.
Et du coup, nous, c'est Meige.
Meige, M-E-I-J-E, pour nos auditeurs et auditrices qui chercheront sur Internet. Et on va écouter une composition, Life Requirements.
Waouh.
Thank you. Thank you.
On vient d'écouter Life Requirements de Mej. Alors Léa Chis, Léa Sichelski.
Ah,
Sichelski, merci. Ouais. Ah, j'avais réussi jusqu'à présent là. C'est l'heure tournant, on se fatigue. Alors, tu joues dans plusieurs grands ensembles, l'orchestre 2035 et tu nous en as parlé, le Surnatural Orchestra. J'aimerais savoir s'il y a un plaisir particulier à jouer parmi un nombre important de musiciens et de musiciennes, et si oui, de quelle nature est ce plaisir?
Ouais, parce que c'est impressionnant, ça fait vibrer, parce que il y a plein de gens, encore plus de gens avec qui rigoler. j'ai un rapport différent avec les deux ensembles parce que pour Surnatural Orchestra, j'écris de la musique, et donc il y a ce plaisir-là d'abord, enfin aussi, mais très fort, de pouvoir imaginer des timbres que permettent 17 ou 18 musiciens ouais. N. Donc
super, ouais.
Donc voilà. Donc déjà il y a ça, ces possibilités là. Voilà, le fait de jouer aussi avec la sonorité déjà existante de l'orchestre qui est enfin voilà qui a, pour moi il y a vraiment un son dont je me suis imprégnée avant de les rejoindre parce que donc moi ça fait 3 ans que j'ai rejoint cet orchestre qui ouais. est déjà c'est un orchestre qui a 20 ans quand même, donc voilà, il y a aussi une histoire. Donc voilà, ouais, l'écriture, enfin la composition pour cet ensemble, le fonctionnement collectif qui m'a appris beaucoup de choses.
Alors ça, je voulais t'interroger là-dessus parce que le Surnatural Orchestra a un fonctionnement particulier, assez, si je me trompe pas, assez égalitaire, sans leader, ce qui nous convient bien ici à la radio des anarchistes. Et ouais, c'est assez proche de ce qu'on pourrait défendre ici. Et je voudrais savoir ce qu'il en est, est-ce que tu nous en parles un peu de ce fonctionnement-là.
Ah bah oui.
Qu'est-ce que ça...
Effectivement, c'est sans tête. Après, en fait, on fait chacune en fonction de là où on a envie de donner des impulsions ou des idées ou des réalisations. Donc y a l'endroit de musique où tout le monde ne compose pas. Mais on est quand même plusieurs à le faire, mais donc il y a déjà cet endroit-là où on est, on peut dire que c'est de la musique de tout le monde parce que de toute manière tout le monde participe aux arrangements, propose des choses, etc. Tout le monde, voilà, il y a un endroit égalitaire dans la musique. D'une certaine manière, il y a un endroit dans le fonctionnement du collectif. Après, c'est, je pense que comme d'autres collectifs, il y a des commissions, on pourrait appeler ça, comme des endroits de réflexion en fait sur des sujets. Donc, il y a un endroit de réflexion sur la musique, après les petites paperasses qu'il faut faire, les demandes de parce que c'est un orchestre qui est subventionné. Tout de même, donc l'endroit administratif. Il y a des petites équipes qui sont plutôt sur le fonctionnement interne, qui vont réfléchir à comment échanger, comment fonctionner. Voilà, il y a l'équipe diffusion pour trouver des concerts. Il y a l'équipe puis on a une nomenclature un peu il y a l'atelier qui est finalement l'endroit où vont se faire un peu les choses administratives et un peu voilà les tout ça ensuite les poissons pilotes donc des membres de l'orchestre qui vont aussi participer à cet endroit administratif il y a les lièvres qui vont observer comment fonctionne l'orchestre et plutôt d'une manière humaine, les aigles qui vont essayer de voir des... On a un petit bestiaire.
Ah, c'est ça, vrai, vous utilisez ces, ouais, ces termes-là, ouais, c'est marrant.
Et c'est, bah, ce qui est chouette avec ça, c'est qu'on... On y met un peu ce qu'on veut, mmh, ou on nomme pas des choses qui sont déjà nommées, à savoir, bon, en vrai, c'est des équipes et c'est des commissions, mais finalement, ça nous permet de pas mélanger la vision, mmh, qu'on a de comment on travaille dans ces endroits-là avec, bah, par exemple, dans le milieu associatif, il y a telle commission, machin, enfin, et du coup, d'essayer de mettre peut-être un autre imaginaire de fonctionnement collectif.
Ça enlève les références.
C'est ça. Je pense que c'est surtout pour ça. Après, peut-être que, enfin, c'est mon prisme, et je pense qu'on a aussi tous une vision très différente de ce collectif. Donc c'est ça qui est marrant. Mais voilà.
Ouais. Alors c'est un collectif assez politisé, tout comme 2035, ouais, dont on va parler. Hein, c'est vraiment. Et je voudrais savoir si toi-même tu es sensible aux questions d'organisation sociale dans la musique, mais peut-être au-delà, dans notre société.
Bah ouais, mais ça me passionne bien. Après, je pense que je suis pas la plus politisée des personnes avec qui je travaille dans ces ensembles, mais j'apprends beaucoup. Par contre, politisée dans le sens inscription politique dans le paysage, j'entends. Ouais. Parce que politisée à vie sur les fonctionnements humains en groupe, je pense que je le suis, mais ouais, voilà. Et donc. Oui, ça m'intéresse très très fort. Les façons de se parler, les façons de s'organiser, les façons de construire artistiquement à plein, et que ça veuille vraiment dire quelque chose. Est-ce que c'est la somme des entités artistiques? Est-ce que c'est un truc qui est au milieu? Comment faire en sorte d'exister très fort en tant que soliste, en tant qu'artiste, tout en existant très fort en même temps en tant que groupe, avec un discours partagé. Enfin, en fait, c'est trop intéressant. Mais c'est sans fin, parce que oui, c'est un endroit qui m'intéresse beaucoup. Bah, effectivement, c'est vrai que ces deux ensembles partagent un peu certaines visions du groupe. Ouais. Ouais.
Alors, je vais pas trop parler de ce que j'ai fait en antenne quand tu es arrivé, de Emmanuel Macron. Il va falloir que je baisse le micro. Il va falloir que je baisse ton micro,
ah oui,
tu vas te mettre à hurler. Mais parlons de 2035. Alors, ouais, tu es dans l'orchestre 2035, mais je voulais savoir, as-tu des projets d'autres formations en commun avec les amis de ce jeune et dynamique collectif parisien que nous connaissons très, oui, bien ici?
Donc 2035, j'ai rejoint l'année dernière. On a déjà fait pas mal de concerts en région parisienne ensemble, enfin surtout dans l'Est, hein, on va pas se mentir.
Dans l'Est parisien.
Ouais. Mais bon, pas seulement, mais. Ouais.
Montreuil, quoi.
C'est une bande un peu montreuilloise, ouais, bagnoletaise quand même. Ouais. Et donc, moi j'adore la musique, j'adore le... Enfin, je suis trop contente de faire partie de cet ensemble, parce que c'est vraiment un ensemble qui a un vrai son de groupe.
Tu parles de l'orchestre
2035, ouais. Ah ouais, oui. Ouais.
L'orchestre, oui, est fabuleux. Hein, oui. Je vous ai vu au Shakira, c'était,
ouais,
super. Ouais.
Moi, j'adore jouer dans ce groupe. Bon, c'est pas très constructif, mais. Et donc, oui, avec Basile, Basile Naudet est également, bon, dans Surnature à l'orchestre.
Ah oui.
Je réfléchis. Ben non, Benoît Joblot. Ben si, on va travailler ensemble. On a un groupe qui est en naissance.
Ah, super.
Voilà.
Bon.
Mais sinon, c'est des personnes que je connais depuis finalement pas si longtemps que ça. Enfin, tu vois, deux ans et des brouettes, mais il commence à y avoir des choses qui s'assemblent, ouais, on va dire.
Ça va se faire.
Ouais.
Et alors, il y a autre chose auquel tu participes, c'est The Bridge, la nouvelle mouture de The Bridge. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, nous rappeler ce que c'est, et comment tu t'es retrouvé embarqué dans cette aventure transatlantique?
J'ai très hâte de ça. C'est The Bridge 2.7, et il s'appelle Claude Hayden,
oui,
qui est un nom qui avait été proposé par Jimmy Branch, oui,